9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, on va s'occuper de votre santé tout l'été sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue. Alors, j'ai réinvité Ilyes Bouzoumita. Bonjour et bienvenue, Ilyes.
Bonjour.
Alors, alias The Challenger, alias Ramadan Man, faut choisir.
Ah, c'est Ilyes The Challenger, je préfère.
Ouais. Parce que... Ramadan Man, pourquoi ?
Ramadan Man, c'était pour les 24 heures. Pendant le Ramadan, on a couru. Donc, du lever au coucher du soleil pendant 24 heures, en fait. Donc, pendant la période de jeûne, sans boire ni manger.
Donc, 14 heures ou 15 heures.
Hein. Voilà, c'était à peu près ça. Et ouais. Après, on a bien mangé, arrivé dans, à l'endroit où est-ce qu'on on devait aller. Et on a enchaîné sur des burgers, etc. Et toute la nuit, on a continué à cavaler.
D'accord. Et donc, pendant cette journée de jeûne, vous avez parcouru combien de kilomètres ?
On a parcouru 104. On était 4. 4 jeûneurs et un non-jeûneur à ce challenger. Et on a parcouru 146 kilomètres. C'était extraordinaire. 84 kilomètres pendant la partie où on jeûnait. Donc, sans boire ni manger, on a couru à l'équivalent de 2 marathons. Donc, pour montrer qu'en fait, aux gens, c'était possible. Même pour nous, en fait, on ne pensait pas que c'était possible, mais on voulait tester. Est-ce qu'il est possible de ne pas manger, pas boire, courir ? On a fait ça donc il y a un ou deux mois de ça. Il faisait quand même assez chaud. Et on a survécu, on était des miraculés pour nous. Dès qu'on a pu enfin manger à 21h, on a tapé le meilleur burger de nos vies. C'était un truc de dingue.
Et ensuite, on a fait. Et là, votre organisme, il s'est pas rebellé quand le burger est arrivé?
Justement, il se rebelle constamment. Non, il était super content.
Il était content?
Non, chaque
pas
bouchée.
Pas de boule.
Non, là, il n'y avait rien, là. Là, il n'y avait rien du tout. Et là où il s'est rebellé un petit peu, c'était. Une fois qu'on avait fini les 24 heures, on était à HS bien sûr, etc. Fallait rentrer, c'était à 4 heures de Paris. Après, il faut jeûner le deuxième jour. Et ben, on a continué sur une journée, pendant Ramadan, donc on a continué. On n'a pas pu, en fait, quand on a finalisé, c'était de 8h à 8h pendant 24 heures.
D'accord. Ah oui.
On finit à 8h du matin et on enchaîne sur une journée classique de jeûne.
De jeûne, ouais.
Jusqu'à 20, je crois que c'était 20h ou 21h. 21h. Ouais, et là, on a pu remanger tranquillement. Pour montrer que c'était possible, en fait. Et ainsi de suite. C'est pour ça que cantonner ça à juste Ramadan Man, c'est pas suffisant. On se challenge sur absolument tout. C'est le mental, c'est le sport, c'est sur tout un tas de challenge. Être actif. Je peux même appeler ça Ilyes the Active Man ou une connerie comme ça. Mais on va rester sur The Challenger.
C'est devenu avec votre frère jumeau. Il s'appelle Ahmed. Bonjour Ahmed.
Complètement.
Voilà, mais je suis né avant lui.
D'accord. Donc vous êtes jumeaux, mais pas de la même date, c'est ça ?
Mais même pas de la même génération. Il a quasiment 10 ans de plus que moi.
D'accord. Quel âge vous avez, Ilyes ?
J'ai 33.
D'accord.
41.
D'accord. 41. Alors, tiens, par contre, il faut absolument... il faut vous rapprocher de votre micro, si vous voulez qu'on vous entende. Et si vous êtes là tous les deux, c'est là. C'est parce qu'on a décidé de challenger les auditeurs de Beurre FM cet été, hein, Ilyes. Vous allez, l'idée c'est de vous faire bouger, et parce que vous avez réalisé une première, hein, parce que il y a pas d'antécédent, c'est que vous avez relié Tunis à Alger en courant. Ça fait combien de kilomètres ?
833,7.
Exactement, 833. Et c'était un challenge dans le challenge, parce que c'est les frontières à ce moment-là, ils étaient fermés. Ils ont réouvert là il y a 3 jours en arrière. Mm-hmm. Et au moment où on a couru pendant que les frontières étaient fermées. Nous, le challenge, il a commencé. Le Tunis-Alger, c'était suite à un pari perdu où on devait un match perdu de l'Algérie. Enfin non, c'était la Tunisie qui a perdu. L'Algérie a battu la Tunisie. Donc j'ai dit, si l'Algérie bat la Tunisie, je vais courir avec un frère algérien de Tunis à Alger.
Ahmed. Bien fait pour vous. Exactement. Alors là, franchement.
Ahmed, il s'est ramené directement parce qu'il avait fait avec moi Paris-Marseille en courant. On est des anciens boxeurs, on se challenge maintenant sur tout un tas de trucs. Et ce guerrier-là, à chaque fois qu'il y a un truc impossible, c'est le premier qui se sent. C'est même pas son cerveau qui l'appelle. C'est son instinct. C'est son instinct de guerre, de challenge. Ah, je peux pas le faire. Bah, je vais te montrer que je peux le faire. Il m'appelle. Il me dit, je suis avec toi sur le challenge. Moi, de base, la plupart de mes challenges, je les fais en équipe. Le plus grand nombre est le bienvenu.
Et par exemple, Ramadan Man, vous étiez combien?
J'ai proposé ça sur Instagram. Qui est chaud pour un Ramadan Man? Il y a trois personnes qui sont venues qui faisaient le Ramadan et une personne qui faisait pas le Ramadan.
Donc vous étiez 5 en fait.
Donc on était 5.
Ouais.
Et à chaque fois, je propose au plus grand nombre de venir. Sur Paris-Marseille, pareil. Et
Tunis-Alger, donc c'était que tous les deux.
Tunis-Alger, là pour le coup, on voulait faire un truc très fort, symbolique, où on courait pour montrer la fraternité tunisiano-algérienne. Et donc, du coup, un Algérien et un Tunisien, je trouvais que c'était parfait. On a fait ça ensemble. Mmh. Mais il y avait son frère jumeau, une équipe de caméramans.
Jumeau dans l'histoire.
Et mon papa, mon padré, qui est sur beaucoup de mes challenges au Maghreb. Il sait que la chaleur, elle cogne et il a plein de petites astuces pour nous faire avancer.
on parle d'une chaleur de plus de 40 degrés quand même.
Voilà.
C'est ça.
Aux alentours de 43 degrés.
En fait, Tunis-Alger, les deux premiers jours, c'était extrêmement dur dans le sens où t'avais le soleil qui tapait, on devait avoir 40, 45 degrés. La Tunisie, c'était d'autant plus dur qu'il n'y avait pas d'ombre, ni de vent. Ça grimpait. Donc je sais pas si tu te rappelles, les deux premiers jours pour moi c'était quelque chose. Fait que le corps trouve un équilibre. Donc du coup vomissement, vertige, etc. Mais malgré tout on continue à courir. Et le troisième jour c'était quelque chose de. Finalement on avait trouvé cet équilibre en tout cas pour ma part.
Le corps avait trouvé ses marques.
Exactement. Et là, je sais pas si tu te rappelles, le troisième jour on était dans une belle intensité. En plus d'autant qu'on avait fait en sorte que le troisième jour on courait moins le premier, on avait je crois 84
km. 82 km.
Après 70 et quelques. Ouais. Et le troisième, on avait tout est relatif, mais que 50 et quelques, 56 km je crois. Parce que justement, on devait passer, traverser la frontière. Et on avait anticipé en se disant, potentiellement, on va nous emmerder à la frontière. Donc du coup, ça vaut le coup qu'on arrive avant 18h quoi. Et on avait plutôt bien couru, on est arrivé avant 17h. Mais je crois qu'on a dû partir à 3h30 de la frontière.
C'est un peu 3h30 du matin. Ouais. Ouais. On arrive à 17h à la frontière.
Vous êtes passé vite pour nous.
Ouais, on est pas.
Ouais, voilà, exactement. On est passé vite.
Là, finalement, c'est passé comme une lettre à la poste.
Voilà. Bien sûr.
Déjà, on est passé. Tout
on
court.
Est passé, oui.
Parce qu'il faut se rappeler le contexte. C'est que depuis les mesures Covid, les frontières terrestres étaient fermées.
Depuis 2020.
Voilà, donc du coup, on a dû faire un travail en amont aussi bien avec les autorités algériennes que tunisiennes pour qu'on puisse nous permettre ce passage.
Et vous aviez une autorisation spéciale de passer, ouais.
C'est ça, exactement, des ministères du sport et de l'intérieur des deux pays, en fait.
D'accord. Ça a pris combien de temps pour qu'ils vous répondent, pour vous donner des autorisations?
Ouais, c'était rapide. C'était assez rapide. En plus, ils ont vraiment été séduits par la démarche, par le projet, par autant le fait qu'on vient de la diaspora et l'idée que finalement on veut courir chez nous, c'était accueilli positivement. Et aussi l'idée de, cette idée de fraternité. Et aussi, on avait raccroché, c'était pas fait exprès, mais on a raccroché ça aux Jeux méditerranéens qui viennent de se terminer à Oran.
À Oran, ouais.
Et donc, du coup, on avait donné du sens à cette affaire. Et d'autant que quelques mois avant, on avait fait Paris-Marseille. Donc, du coup, c'était pas une histoire folle, c'était assez crédible, ils l'ont déjà fait.
Vous êtes entraîné avant ou pas? Vous avez fait quelque chose de particulier pour avant de vous lancer dans cette opération ou pas?
C'est pour ça qu'en fait, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Ahmed et moi ne sommes pas des coureurs. Moi, je cours beaucoup plus depuis, mais Ahmed, c'est un businessman, il travaille énormément et père de famille, etc. Il n'a pas forcément énormément de temps pour les entraînements.
C'est pas une histoire de temps. Pour moi, c'est parce que le temps, on l'a pas, on le prend. Mais là, pour le coup, c'est où est-ce qu'on met les priorités. Mais je te laisse juste pour réagir là-dessus.
Complètement. Mais, et finalement, tu vois. ce qui s'est fait en fait dans ça, c'est exactement tout le temps pareil. C'est sur chacun des challenges qu'on se lance, et c'est pour ça que là, il y a même maintenant des challengers qui sont nés de ces aventures-là. Ouais. Il y a un mec qui va faire 350 km, 50 km par jour, tous les jours, pour rejoindre au Portugal. Porto à Faro, où je me souviens plus, en tout cas ça fait 350 km, c'est 7 jours. Et en fait, c'est pour montrer qu'on peut tous le faire. Le programme, il est super simple, entre guillemets. Hein. C'est une journée type, par exemple, sur ce qu'il va faire lui, 50 km par jour pendant 7 jours, 350 km, c'est courir une journée type, donc 50 km sur l'entraînement en amont, et ensuite faire deux journées où on court d'affilée. C'est-à-dire, on court aujourd'hui 20 km ou 30 km. Demain, on réembraye sur 20 ou 30 km, la même distance. Et donc, du coup, ça, c'est l'entraînement clé pour toutes les distances, tous les challenges.
De mon point de vue, L'entraînement, en fait, c'est... En fait, on a couru, on s'est mis à courir, ça fait quoi? Ça fait deux ans, un an et demi, deux ans?
Complètement.
Et en réalité, l'entraînement pour faire Tunis-Alger, c'est un entraînement qu'on fait depuis deux ans, en fait. Je m'explique, c'est-à-dire... La première course, moi, que j'ai faite, c'est Ilyes, il m'a dit, en gros, il m'appelle un jeudi pour courir le samedi, faire le Tour de Paris. Et cette première course, je l'avais fait justement sans préparation, sans entraînement.
34 km.
Voilà. Et c'était la misère. Enfin, pour moi, c'est la course la plus dure que j'ai jamais faite.
C'est très, très dur.
C'est le Tour de Paris. Et en réalité, c'était la course la plus dure, mais on l'a refait, du coup. Donc là, j'ai peut-être eu besoin de 5 jours pour me remettre. Mais on l'a refait 3 semaines après. Et c'est plus facile. Après, on s'est remis à la refaire plusieurs fois.
Et ça montre quoi, ça, justement?
Ça montre quoi?
Ça montre le mental. C'est-à-dire que c'est le mental. Là, le fait de faire les deux trucs. Une fois que tu sais mentalement que tu peux faire 50 km, donc une journée type, et le courir deux jours de suite, mentalement, t'es préparé.
Ton corps, il sait qu'il va y arriver.
Exactement.
En l'ayant fait, en fait, tu vois.
Et pour aller dans ton sens, quand tu dis le mental, c'est qu'en fait, il y a plein d'idées reçues que t'as, en fait, avant de courir. Parce que, tu sais pas, c'est un saut dans l'inconnu. Et t'as tout un tas de, comme moi, je suis dans l'entrepreneuriat, t'as tout un tas de gars qui sont autour de toi qui vont te dire, c'est pas possible, c'est dangereux, ils vont te parler des blessures, etc. Et dans ce cadre-là, le choix que tu as, c'est soit tu t'appropries leurs limites, et donc tu vas te limiter, ou soit tu essaies de t'en affranchir. Et là, pour le coup, on s'affranchit de ces limites par la pratique, parce qu'en fait, vu qu'on n'en a pas, on va aller voir jusqu'à où ça bloque.
Vous n'avez pas de limites, c'est ça?
Non, on essaye, on voit, et c'est ça qui est important.
En tout cas, on ne veut pas croire aux limites des autres, je dirais plutôt.
Complètement.
Parce que généralement, c'est les autres qui se projettent sur toi. Voilà, à la fin, c'est là où tu vois, un marathon, tu me parlais d'un marathon il y a deux ans. Pour moi, tu me parles d'une étoile. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, c'est accessible. Donc, on touche les étoiles, si tu veux.
Bon, allez, challengez vos traités avec Ilyes, le challenger. Et il est avec nous avec son frère challenger d'ailleurs,
Ahmed,
jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je lui ai demandé, j'ai dit voilà, Ilyes, vous venez et vous challengez notre été, voilà, l'été des auditeurs de Beurre FM. Vous êtes Ilyes le challenger et vous êtes venu avec Ahmed Bouzouaïd, avec qui vous venez de parcourir et de courir le Tunis-Alger. 13 jours, hein.
13 jours.
Plus de 800 kilomètres.
832, je sais plus combien de
833,7.
Ah, pardon.
Fais pas chier.
Chaque mètre compte.
Elle a chaque mètre compte, hein, parce bien que sûr. Sincèrement, c'est quelque chose.
Ahmed, c'est quoi la première phrase en algérien que vous avez apprise à Ilyes?
Que j'ai appris à Ilyes.
Que vous lui avez appris, oui.
La phrase
fondamentale. Non, il faut pas tekdeb. C'est celle-là d'abord.
Il a compris?
Ah, il a compris.
Ouais. Non, c'est ça que j'ai remarqué. La langue tunisienne et algérienne se ressemble beaucoup comparé au marocain. Le dialecte, en tout cas.
Ouais, le dialecte, ouais.
Et après, la deuxième, c'était réformer
100%. Ça, c'est... Non, parce qu'en fait, on a un amour qui est sincère déjà, mais en même temps
calme-toi.
Voilà, on se challenge. Tu sais, lui quand il me voit, parce que
mais ça veut dire quoi justement, puisque là on est là pour challenger les gens et pour leur donner envie, ça veut dire quoi il me challenge?
Ça veut dire en fait déjà ça veut dire on se connaît, parce que sinon pour se parler mal mais avec le sourire, on sait quelles limites on a les uns avec les autres, parce qu'on est quand même des gens fiers, tu vois. Mais un orgueil qui est pas mal placé. Et ça veut dire que l'un et l'autre, on a envie de faire grandir l'autre. Et quand lui veut me faire grandir, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses. Ça veut dire qu'il a une idée de mes capacités. Et donc, il va m'inviter à aller plus loin que là où je pense, où je serai allé tout seul, on va dire.
Ouais.
Mais sans me mettre en danger. Mais du coup, ça suppose aussi une logique de psychologie, c'est-à-dire lui, c'est très bien pour me parler. Des fois, il y a des séquences hyper difficiles, hein, parce que là, on raconte quand je fais Paris-Marseille, j'ai couru avec un claquage à la cuisse, et pendant des heures, ça veut dire courir en pleurant, et c'est pas une image. Et lui, il va me voir courir en pleurant, il va me dire arrête de pleurer, t'es pas une chèvre.
Mais qu'est-ce qui vous fait avancer dans ces cas-là?
Un objectif profond. Vraiment, déjà, de toute façon, je pense, moi, quand, dès lors que je dis que je vais aller quelque part, ben, je vais y aller.
Parce mais il y a la douleur, Ahmed.
Oui, mais peu importe. Je sais pas si tu te rappelles la course. Lui, justement, me dis, t'es pas une chèvre. Ilias, tu cours avec lui. Si tu lâches l'affaire, t'es une merde, tu vois. Mais c'est bienveillant quand il dit ça. Ça peut sembler violent pour les auditeurs. Mais ce que je veux dire par là, une seule fois dans une course qu'on a fait ensemble, il m'a dit, Ahmed, faut que t'arrêtes. Tu te rappelles ou pas?
Bien sûr, je m'en
souviens. C'était Paris-Dieppe. Premier jour 92 km, le deuxième jour 88 km. Et 87, pardon. Et je me suis fait une périostite, ça veut dire c'est une sorte de bleu extrêmement violent au-dessus de la cheville, sur le tibia. Et
chaque fois que tu cours, c'est des coups d'électricité sur le tibia.
Et c'est d'une violence inouïe parce qu'en fait, t'es censé t'arrêter au bout de 20 minutes, 30 minutes, mais sauf qu'on court tout le temps. Et donc, à un moment, ce bleu devient noir et la cheville, t'as l'impression que tu cours avec une jambe de bois. Le corps enclenche des mesures de protection et la cheville ne fonctionne plus, en fait. Et donc, j'ai couru comme ça, j'ai terminé en pleurant le premier jour, les 5-10 kilomètres qui restaient. Ils étaient extrêmement pénibles. Deuxième jour, j'arrive à repartir. Tu sais, je repars en mental, je te rappelle, il neigeait.
Il neigeait, c'était
et j'étais reparti devant. Tu vois?
On commence très tôt le matin.
Avec le frelon
de 3h du matin, c'était très dur.
Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, faut remettre le contexte. C'est le Covid, il neige, il fait extrêmement froid, et dans aucun endroit on peut rentrer pour se réchauffer. Et donc, on peut pas s'arrêter de courir parce que sinon, tu te mets en danger. Parce qu'en cours, on sue, etc.
Tous les restaurants étaient fermés. C'était vraiment.
Et heureusement qu'il y avait la petite mosquée dans la prairie.
Ah oui, c'était sur. C'était mon tout premier challenge, ça. La mosquée 24 heures sur 24 ouverte.
Oui. J'essaie de revenir, mais non, juste pour aller vite, et pardonnez-moi, je suis un petit peu long, mais donc ce blocage, il revient donc le deuxième jour, donc je cours le matin et tout, je suis un peu plus frais, mais j'ai quand même la période.
Tu libères son traumatisme, c'est important.
Non, c'est fait là, c'est l'annonce.
En plus, à la radio, c'est la libération, elle est plus grande, il y a.
Bien sûr,
il faut comprendre.
Donc, on doit payer après ou c'est.
En chaussures, je fais du 46. Donc, wow. Non, mais finalement, ce qui veut dire que Ilyes connaît vos limites.
C'est ça.
Et qu'à un moment donné, il dit arrête-toi.
Exactement. Et je me suis pas arrêté. Je ne suis pas arrêté, j'ai continué. Parce qu'il restait une boucle de Paris. Mais bon, il y a un côté un peu mystique, je ne vais pas rentrer là-dedans.
Moi, si tu me permets,
vas-y.
Je connais les limites d'aucun des frères et sœurs de guerre qui viennent avec moi sur des challenges en courant ou à vélo. Simplement, je sais qu'en fait, sur beaucoup d'aventures, j'ai rencontré énormément de coureurs et de coureuses, dont un que j'aime énormément, Philippe, il s'appelle justement Philufo. Et ce mec-là, il a couru tellement de courses, et il m'a dit une chose que je retiens tout le temps et que je dis tout le temps à mes camarades de guerre, c'est en fait, quand tu cours de très longues distances, quand t'es un ultra sauvage, et ben, ce genre, tu peux pas te blesser. Ça n'existe pas, la blessure. En courant à 6, 7, 8 km heure, tu peux pas te blesser. Et donc, moi, je les vois, les mecs, ils sont en train de se tordre de fatigue en se disant, je vais me blesser, je peux pas continuer comme ça. Et je vois, je connais leur allure. Et cette allure-là, c'est soit ils ont peur de se blesser, soit ils sont en train de laisser place à la paresse. Et moi, je veux pas courir avec un pote à moi qui est en mode paresseux. Soit il court pour de vrai et qui donne vraiment tout de son, même s'il court à 4 km à l'heure, que je vois qu'il a, c'est ce que je dis tout le temps, tant que tu me montres 1% de courage, on courra ensemble. Même s'il court à 3 km/h, je le vois en train de pleurer, en train de crier, en train de se battre. Ça, j'aime et je veux endurer avec lui. Mais s'il est là à montrer que son côté paresseux, là, j'ai pas envie de courir avec ça.
En fait, la difficulté dedans, justement, c'est là où finalement on va dans ces courses-là, vu qu'elles sont sauvages, elles sont pas encadrées, on rencontre les gens, etc. Mais en fait, on se rencontre soi-même. Et c'est-à-dire, on connaît pas ses limites, on connaît pas. En fait, on va aller au-devant de douleurs qu'on connaît pas, en fait. Et à ces douleurs, si t'ajoutes toutes les représentations qu'on a de bah ça c'est dangereux, tu vas péter ton genou. Moi, la première course où tu fais le tour de Paris, j'avais vraiment la sensation, c'est les sensations que finalement j'avais du sang qui coulait dans les genoux. Enfin, j'ai l'impression que j'étais en train de perdre mes genoux. Et en fait, c'est aussi finalement une école pour se reconnecter à ces sensations et même lire ces sensations, dépouiller du jugement. Parce qu'en fait, t'as des sensations, mais dessus, tu accoles des images, tu vois. Tu te dis, bah là, c'est la fin. Là, je vais perdre ma jambe. Là, mais vraiment, c'est ça les idées que tu as, en fait. Et en fait, t'essayes de te défaire de ça. Mais pour ça, t'es obligé de d'apprivoiser en fait ces exercices qui sont, c'est un saut dans l'inconnu, ça que je veux dire.
Mais alors par exemple sur la course Tunis-Alger, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même?
Si
il y a de nouveau.
Moi quand je suis dans des courses comme ça, j'ai déjà vécu des, j'ai fait des Tunis, j'ai fait 1253 km, j'ai fait la Thaïlande, etc. Et donc ça c'est soi-disant moins grand, etc. Mais c'est pas ce qui m'a intéressé en fait, c'était d'apprendre plus sur, j'ai plus appris sur mon pote que sur moi en fait. C'était tellement puissant. À un moment donné, il y a une phase, on était vers donc toujours de Tunis vers Alger, côté algérien, il fait très chaud, c'est montagneux. Donc en Tunisie, il fait sur le même ligne horizontale, je sais pas comment on appelle ça. Sur le même
latitude
équatoriale, c'est quoi? Oh, je sais plus. Sur la même ligne, il est censé faire la même chaleur en fait partout dans le monde. Et ben en Tunisie, c'est très jaune, très sableux, très intense au niveau de la chaleur. Et quand on passe côté algérien, tout de suite ça devient vert, montagneux. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai été très agréablement surpris par l'Algérie, très très vert, très montagneux. C'était magnifique. Ouais. Par contre, on arrive à un moment, je crois que c'était le 7e ou le 8e jour, je me souviens plus exactement. Et donc le corps et les pensées passent par mille et une phases, hein, ça c'est sûr. Et là, je vois Ahmed qui, ça faisait 2-3 jours que son allure, je le connais, j'ai couru avec lui 800 à peu près la même distance Paris-Marseille. Il faisait moins chaud, certes, mais j'ai couru avec lui les mêmes distances. Je le connais, je sais la puissance qu'il a et je sais que lui, il court pas à cette allure-là et il se laisse pas autant de temps malmené par ses mauvaises pensées. On a tous des courants de pensée. Il y a des moments où on va courir vite et on va courir très doucement, voire marcher 500 mètres, 10 minutes, des choses comme ça. Donc, ça appartient au truc. Mais quand tu restes pendant 5, 6, 7 heures, là, je le connais. Je supporte plus ça de lui. J'arrivais pas. Je pouvais pas le...
En fait, il faut entendre, le Paris-Marseille, on était trois. Ah pardon, Paris-Marseille, on était trois. Et ça, je l'ai vu dans toutes les courses. En fait, il y a une chose, là, on n'était que deux.
Ouais.
Il faut savoir que, en fait, dans toutes ces courses, il y a un enjeu qui est extrêmement important. C'est plus des courses mentales et morales que physiques, en réalité. Parce que, en fait, il y a une chose, et ça, tu vas confirmer, c'est que dans toutes les courses, c'est pareil. C'est très difficile d'être toujours derrière.
Et donc,
ça veut dire ça casse le, enfin mentalement.
C'est derrière l'autre. C'est
exactement,
ça
tout ouais. à fait. Et moi j'ai vu dans des courses où je vais à l'arrière, justement pour pas laisser les autres derrière, parce que je sais que à ce moment-là, leur esprit va être aspiré par tout un tas de mauvaises pensées, etc. On t'en a parlé, je vais pas rentrer dans les détails.
Se sentir le boulet en fait.
Voilà.
Ça.
Et du coup, effectivement, il y a une forme d'inertie. On va être tiré vers le bas pour finalement cette c'est le poids de l'existence, tu vois.
Et là, ce qui s'est passé, c'était le moment fort, moi, que j'ai kiffé. Ouais. C'est donc du coup l'Algérie, blablabla. À ce moment-là, ça fait 5-6 heures. Il en peut plus. À chaque fois qu'on rentre dans des petits villages, il s'arrête systématiquement, faire pipi, lasser ses chaussures, demander à chaque fois des petits trucs pour qui moi mon interprétation c'était
gagner du temps.
Il est en train de gagner du temps. C'est pas mon pote. Il va pas à cette heure-là. Je le connais très bien. C'est pas ça. C'est pas lui. Donc je dis ok, tu veux jouer comme ça aujourd'hui. Moi je peux pas faire ça. Je peux pas. Je cours pas avec un mec comme ça. Je cours avec un guerrier ou je cours pas avec une chèvre. Mmh. Et je commence à courir vraiment seul devant. C'était compliqué parce qu'il y avait toujours des escorts de police qui nous suivaient. Ils voulaient pas qu'on soit éloignés trop l'un les uns des autres. Du coup, ils ont ramené une deuxième patrouille pour me suivre moi aussi, pour pouvoir suivre les deux. C'était un peu compliqué au niveau de la logistique, mais je cours tout seul et je commence à courir à mon allure à moi pour la première fois de tout le trajet. Et c'était que de la montée. Donc ça travaille énormément le mental, il faisait chaud, etc. Tu te souviens? Que de la montée et je cours à mon allure. Je me dis pas, je cours doucement pour le laisser me rattraper, etc. Et lui, je l'avais laissé 5 heures en arrière. Il était mort de fatigue. Je le traînais de force, il voulait pas avancer. Sans que jamais que je le pousse. Hein. C'était vraiment toujours l'un à côté de l'autre. Et là, je le lâche. Je cours une heure tout seul. J'arrive quasiment en haut de la montée. Je me retourne, je lui dis, je lui ai mis 40 minutes facilement dans la gueule. J'ai fait exprès de pas m'arrêter au point d'eau, rien du tout. Je me retourne, il est 200 mètres derrière moi. En fait, il s'est accroché, il a montré un mental ce jour-là, c'était incroyable.
Mais
il m'a stupéfait.
Ouais,
et j'étais.
C'est pas exactement ça.
C'est pas
moi,
ça.
Je vais te dire l'histoire de mon point de vue.
Vas-y, raconte.
Non. C'est que en réalité, je m'étais blessé au niveau de la
du mollet. Ça fait 3 jours. Hein.
Non, attends, je te dis. Ouais, mais ce jour-là, et ça, en fait, c'est devenu hyper intense, tu vois. Et je te jure, hein, j'ai galéré. Et là, en fait, ce qui s'est passé, je me suis rappelé Paris-Marseille.
Tu t'es blessé au tendon d'Achille, là où tu t'es...
Non, c'était là.
D'accord. Et là, à la radio, ça passe pas beaucoup.
Mais ouais, en fait, j'avais une blessure au niveau du mollet. Et ouais. Chaque jour, j'avançais, elle devenait de plus en plus intense. Et ce jour-là, c'était la misère. Et ce que je me suis dit... Et en fait, j'ai attendu que le troisième jour. Le troisième jour, je me suis rappelé de Paris-Marseille, en fait, où quand je m'étais fait ce claquage. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à respirer. C'est toi en plus qui m'avais appris ça. Et je me suis mis à respirer. En fait, tu rentres dans une forme d'état de transe, en fait. Et donc, je me suis mis à respirer, jusqu'à ce que je me suis dit, de toute façon, ça va passer. Et c'est passé, tu vois. Et c'est ça qui s'est passé, en fait.
Et il était derrière à 200 mètres.
Il était à 200 mètres. Vraiment, bon. En fait, et là, je me suis rendu compte que mon pote, il est bien en position de chasseur. Parce que moi, j'avais dit quoi? Dès que je l'ai laissé, je dis, t'arriveras jamais.
Ouais, c'est ça.
T'y arriveras jamais. Et je suis parti pour l'encourager à ma manière. Et ben, il m'a dit, ah ouais, t'arriveras jamais dans sa tête. Et il était de 200 mètres derrière moi.
Bon, vous allez challenger les auditeurs de Beurre FM dans un instant. Ilyes, on va voir ce que vous allez leur dire, ce que vous avez trouvé pour les faire crapahuter cet été.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bon, Ilyes, The Challenger, est avec nous. On vous retrouve sur les réseaux, hein, Ilyes. Et puis, vous êtes venu avec Ahmed, votre binôme qui a couru avec vous, Tunis, Alger, en 13 jours. Qu'est-ce que vous avez préféré dans l'aventure, Ahmed?
Alors, moi, ce que j'ai préféré dans l'aventure, c'est... J'ai trois séquences, désolé. La première, c'est quand on arrivait à Alger, en fin de journée, on était accueillis par tout un tas d'enfants qui ont concouru avec nous, et c'était réconfortant, c'était une vraie rencontre avec le pays, et ça, c'était du baume au cœur. La seconde chose, c'était on a été accueillis par des habitants, et certains vraiment on sent que, si tu veux, c'est pas une famille bourgeoise, si tu veux, et ils nous ont, on avait un buffet incroyable. Et ça arrivait partout, ça arrivait dans plusieurs villes. Les gens, en fait, quand on courait, ils avaient le sentiment qu'on venait les visiter. Donc ils t'accueillent. Allez, on a mangé un super couscous dans un restaurant comme ça, où je me rappelle un mec, je sais pas si on courait, il était assis sur un trottoir, il était en pleine dépression, il nous voit passer, il lève la tête, il nous regarde comme ça et il nous dit, mec, tu m'as redonné le moral. Et il monte chez lui, il nous ramène un grand plat, et on le mange en bas sur la, voilà. Et cette générosité là, elle est juste incroyable. La troisième chose, c'était le moment qui devait être le plus dur, et c'est avéré pour moi le plus facile. En approchant la Kabylie, il y a un passage qu'on appelle les portes de fer. Donc c'est essentiellement des montagnes. La journée, le seul thème, c'est tu vas monter. Et quand t'as fini de monter, tu vas continuer à monter. Donc on va grimper toute la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que même j'avais l'impression que le matin, les flics qui nous escortaient se foutaient de notre gueule parce qu'ils savaient ce à quoi on allait faire face. Peut-être que ça a un peu agacé Ilyes, et c'est pour ça qu'il a dit, bon, on va leur montrer que justement, on a surfé sur la vague là. C'était une montagne, mais vraiment on a les images, peut-être qu'un jour les auditeurs auront l'occasion de les voir, mais Ilyes, littéralement, il dansait sur la pente en grimpant, et du coup on a fait tout ça avec un mood tellement agréable, comme quoi, et je trouve, c'est la métaphore aussi de toute cette histoire, à savoir que véritablement l'état d'esprit change tout, la manière dont t'accueilles les choses, la montagne, aussi grosse qu'elle puisse paraître, finalement on l'a abordé avec le sourire. Et je me rappelle, on montait, à un moment, il me dit, mais tourne-toi. Et tu te tournes et tu vois tout ce que t'as grimpé, tu te rends pas compte. Mais parce qu'on l'a fait avec une facilité déconcertante.
Il surfait, Ilyes.
Complètement.
Alors comment, de tout ça, vous allez challenger les auditeurs, là? Maintenant, vous partez, quand on vous écoute, vous dites, tout le monde peut le faire, tout est possible.
Bah alors, en fait, moi, c'est sur Instagram, c'est Ilyes The Challenger,
Challenger.
Ouais, Challenger. et j'invite toujours les gens à se challenger. Là, par exemple, on a fait dernièrement Paris-Bruxelles à vélo. Parfois, je fais des challenges à vélo sur les longues distances, pour pas que les gens ils me disent, ah, mais c'est trop long, je prends un vélo. Et là, ça ramène un peu plus de monde, des garçons, des filles, toutes les classes sociales, etc. Tout le monde est le bienvenu, en fait. Et il y a un mec qui vient, on commence de l'Arc de Triomphe, on doit terminer à la gare du Midi à Bruxelles. Et on a 24 heures pour le faire. Donc, on commence à, pareil que la Ramadan Man, on commence à 8 heures du matin, on doit arriver au train de la gare du Midi à 8 heures du matin. Et le mec, il vient, il a pas de cuissard, le truc, là où on a le plus mal, c'est au popotin, quand on est sur le vélo.
Il faut dire que le vélo, ça fait mal aux fesses.
Ah oui, ah ouais, complètement.
C'est pas les mollets, c'est pas les cuisses.
Ah hein. Oui, la course à pied, c'est les pieds, et le vélo, c'est l'assise. Et du coup, le mec, il vient sans cuissard, il vient sans rien du tout. Et de l'Arc de Triomphe jusqu'à, ceux qui habitent la région parisienne vont comprendre, jusqu'à Port-de-Pantin, c'est à peu près 10 km. Il va bien. Il sort de Paris, on est sur le canal de Lourdes, ça fait 13 km. Je le vois, il commence à se mettre sur un côté, sur l'autre côté, il a mal au popotin.
La danseuse.
La danseuse, exactement. Ouais. C'est impossible qu'il réussisse à arriver à Bruxelles. Impossible. Il n'a pas d'équipement, il est venu en VTT avec une seule vitesse à l'avant, une catastrophe. Et ben ce mec-là, il n'a jamais cru en lui jusqu'à qu'il soit dans le train avec nous à Bruxelles parce qu'il est arrivé. Il a fini par y arriver. Chaque région où on passait, on lui disait arrête-toi, là tu vas quitter l'Île-de-France, là t'as encore le choix, prends le train. Et il appelait des potes à lui pour qu'ils viennent le chercher chaque fois partout. On dit rajoute juste un kilomètre et tu verras. Rajoute juste un kilomètre, jusqu'à qu'il est arrivé, tu sais quoi, à Bruxelles. Il y croyait pas, lui. Il arrivait à 12 km de. Il en pouvait plus, on n'a pas dormi de la nuit, c'était 24 heures. Il arrive à 12 km et il appelle un pote à lui qui répond et qui dit ouais, je viens te chercher. Je lui dis mais t'es arrivé à 12 km de truc. Termine, t'as fait 300, on l'a fait, c'était 330 km à peu près. Et c'est en ce sens-là que je veux booster les gens. Là, par exemple, je fais un challenge, je suis pas vegan, j'arrête pas de manger des burgers. Je suis plus connu pour ça que pour autre chose sur Instagram. Je mange que des burgers tout le temps, je suis à fond là-dessus. Je me suis dit, c'est quoi? Avant les vacances, je vais pas faire comme tout le monde, ouais, 3 mois pour ce bodybuilder ou quoi que ce soit. On va challenger son mental. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de me réveiller tôt. Je me réveille chaque jour à 6h du matin. À 6h30, je suis sur le bitume. Que je fasse 2 km, 3 km, je m'en fous. Mais c'est ça, c'est sur 5 jours pour ceux qui veulent, sur 10 jours pour ceux qui veulent. Et j'ai allié ça à manger des légumes et manger des fruits. J'apprends sur le tas, mais j'apprends. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va faire. Donc, si vous voulez vous challenger, c'est maintenant que ça se passe et essayer petit à petit sur des petits trucs. 5 km, 2 km, 1 km, l'essentiel c'est de bouger. Mettez-vous ça en tête et passez à l'action. Juste passez à l'action.
Non, c'est intéressant parce que dans ce qu'il dit, en fait, effectivement, tout ce qu'on a fait, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut commencer par un pas. Non, si, c'est vrai, ça veut dire. Moi, je le disais tout à l'heure, maintenant.
Vous êtes des anciens boxeurs, vous êtes des sportifs,
mais c'est ça.
Vous avez des mentales de boxeurs. Mais ça fait peut-être la différence.
Le mental, c'est quelque chose. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire de la boxe pour avoir un mental qui tient la route. Mais par contre, je pense, ce qui est important, parce qu'en fait, on s'en fiche de 800 km ou de 30 km. L'important, c'est le mouvement. Et maintenant, et de la course, il l'a dit, hein, l'histoire du mec qui est à Bruxelles, en fait, il rajoute un kilomètre. La course, c'est la même chose, c'est un pas devant l'autre et on recommence. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est que chacun puisse faire quelque chose qui est un petit peu, et ce petit peu là, c'est ça qui va faire la différence. Et parce que généralement, on n'arrive pas. Les montagnes, on parlait des montagnes. Les montagnes, elles sont faites de cailloux. Maintenant, c'est vraiment comme ça qu'on va avancer. Et généralement, les gens, ils se mettent la pression et voient la montagne. Alors que si tu vois les cailloux, tu dis, OK, allez, petit à petit, j'y vais, je fais quelque chose à ma portée. Mmh. Et c'est ça, Ilyes, la manière dont tu tires tout le monde. C'est que chacun, il va selon ses moyens.
Là, on était à peu près une douzaine. On était 12 à faire Paris-Bruxelles. On était des garçons, des filles, un ami d'enfance avec moi qui est devenu informaticien, 3 nanas et plein de garçons déterminés, comme je dis, qui viennent de tout âge, de toute classe sociale, etc. Et en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était se challenger et découvrir sur eux, tu vois. Donc, il n'y avait pas d'histoire de mental ou de social. Simplement, peut-être que c'est possible. Et moi, en fait, quand je fais quelque chose, justement, là, à chaque fois, on me dit, ouais, mais toi, c'est parce que t'as commencé la boxe à 10 ans, t'as ça en toi, t'as ceci, t'as cela. Et quand ils voient les autres faire ce que moi je fais, ça leur donne tout de suite l'impact. Bien beaucoup sûr. Plus que quand c'est moi qui le dis ou qui le fais. Et ça, c'est exactement ce qui donne Ahmed.
Tu sais, là, il y avait la. D'ailleurs, t'es même pas venu. Il y avait la fin d'année, le jour de fin d'année de notre club de boxe historique, tu vois. Il y avait tout le monde. Il y avait je sais pas combien de boxeurs et la moitié de la salle boxe 1000 fois mieux que moi. tu vois. Ben, tous ils font pas ça. Et un qui est l'un des meilleurs boxeurs, je citerai pas son nom. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ça m'a touché. Hein. Moi, franchement, il m'a donné envie de pleurer. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est super ce que tu fais avec Ilyes et tout. Il m'a dit, ça me donne envie de vivre. Tu vois?
Et vivre avec le vrai sens de vivre. Tu vois?
Et moi, je sais pas le sens qu'il a mis derrière.
Non, mais c'est ça,
mais, merde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une histoire de, oui, t'as un boxeur. Parce qu'il y en a plein, c'est des boxeurs et après, ils arrêtent. Après, mais c'est la volonté.
Là, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, pour le. Moi, je suis pas vegan. Au même titre que je suis pas boxeur, j'ai pas fait une grande carrière de boxeur ou que ce soit, mais comme pour le challenge, les challenges de grandes courses, les grandes distances, j'ai effectué un courir une longue distance en courant et le lendemain courir deux jours de suite pour me familiariser et pour me mettre là sur ce truc là de manger que des fruits et des légumes. Moi qui suis un carnivore puissance 10, et ben ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé à me documenter, commencé à regarder des trucs sur Netflix sur le les véganes, sur les performances qu'un mec qui a couru 160 km juste avec des légumes, le plus grand titan des États-Unis est végane, et tout un tas de trucs comme ça qui font que je normalise l'information. Donc, pour courir ou pour faire un truc, d'abord, il faut que ton cerveau, il accepte l'information.
C'est possible.
Que c'est possible, que c'est normal, que c'est pas un truc de dingue comme tout le monde le dit. Et ensuite, ouais, juste passer à l'action.
Quand on devait faire Paris-Marseille, tu es obligé, tu vas te rappeler de ça. Je sais pas, on avait discuté avec quelqu'un et genre, tout le temps, quand tu fais un projet, t'as une armée de personnes qui vont te casser en te disant c'est pas possible, ça, voilà, tu vas danger, etc. etc.
Eux, mais c'est les meilleurs, eux, je les mange.
Et c'est pas possible, c'est trop. Et le soir, on était ensemble, on sort, on rentre, et le soir, tu m'as envoyé l'histoire d'un mec qui fait 100 km tous les jours pendant 100 jours. Ah, quand tu vois ça, ton cerveau dit, moi, mais en fait, c'est bon, c'est facile. Voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est accessible. Et il y a vraiment une idée de quelles sont les limites que t'as, les carcans, en fait, hein, que t'as, c'est quoi ton référentiel? Et l'atout qu'on a quand on est des boxeurs, c'est peut-être il y a le côté niaque parce qu'on sait qu'on sait qu'il faut continuer malgré qu'on prenne des coups, mais je pense que la force c'est pas ça. C'est que comme on est des boxeurs, on vient pas de la discipline de course, on n'avait pas des talons. On savait pas 25 km ou 42 ou on s'en fiche en fait. Nous notre projet de courir un objectif, on n'avait pas de la distance et ça, et au-delà de ça, il y a un danger. On s'en fiche, nous on voulait courir un objectif.
Simple, efficace. Là, sur le challenge que je fais là en ce moment, pour se challenger sur l'été, par exemple, se mettre en tête, je veux courir. Admettons, il y en a qui aiment le kayak, il y en a qui aiment le vélo. Peu importe le sport, l'essentiel, c'est de se mettre en mouvement et voir comment le corps, il va nous donner d'autres informations, en fait. Moi, ce que j'ai demandé, il y a des gens qui m'ont suivi d'Espagne, qui m'ont suivi d'Italie, qui me suivent de France, d'Algérie et de Tunisie, qui le font en même temps que moi, le truc de courir chaque jour pendant 10 jours. J'ai demandé aucune règle à tout le monde. Chacun, il a un corps, chacun, il a un passé, chacun, il a des challenges en tête. Donc, la seule chose que j'ai demandé, c'est chaque jour, lève-toi le plus tôt possible, va courir. Si tu peux pas et que tu travailles à 4 heures du matin, tu te couches, tu vas courir à 22 heures. Mais en tout cas, en gros, c'est changer la donne, se forcer à faire un truc qu'on n'a pas l'habitude, en normalisant, en regardant des choses qui vont dans ce sens-là, et on se donne rendez-vous dans 10 jours. Il faut que dans 10 jours, chacun de nous, finalement, on est 43 personnes à se challenger d'un peu partout, en France, au Portugal, etc., à se challenger, à courir chaque jour. Moi, je cours, par exemple, je me suis mis un minimum de 5 jours, 10 pompes sans abdos, des choses comme ça. Et il y en a pour qui ce sera 2 km chaque jour, 20 minutes de marche, chacun. Mais changer sa routine pendant 10 jours et voir comment l'esprit y change. Pas
bien, challenger votre été avec Ilyes le challenger. On vous rejoint comment, Ilyes?
Alors, c'est sur Instagram. Tout se passe sur Instagram. C'est Ilyes, I-L-Y-S, The Challenger, T-H-E Challenger. Et Ahmed Bouzouaïd, pareil sur Instagram. Ouais. Ahmed, B-O-U.
Mais Bouzouaïd, mais sincèrement, vous allez suivez Ilyes.
C'est Bouzou et Aïd.
Aïd comme la fête.
Exactement. C'est comme la fête, c'est ça. Comme la fête. C'est facile, Bouzou et l'Aïd.
C'est simple. Voilà. C'est simple. Mais il faut se challenger et
on se donne rendez-vous à la rentrée. Hein. Déjà, oui. On verra à la rentrée ce que ça a donné, si vous avez réussi déjà à passer à l'action, à vous mettre en mouvement.
C'est exactement ça. Le secret, c'est se mettre en mouvement.
Passer à l'action, se mettre en mouvement, croire en soi, essayer et se détacher complètement en fait des idées reçues et se rapprocher en fait de personnes comme Ahmed, comme s'accrocher, justement faire un microcosme autour de l'idée qu'on a en tête. Il y aura toujours des gens comme nous, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls et on peut trouver une équipe qui va nous aider à aller là où on veut aller.
Et si ne serait-ce qu'une personne qui a écouté l'émission ce matin s'est mise en mouvement, on aura gagné. Et
on aura
ne
gagné.
Ne serait-ce quelle qu'une victoire. Personne une. Qui s'est levée et qui a dit, ben voilà.
Quelle victoire.
Voilà, finalement, mon été.
On est des agriculteurs, on plante des graines.
Oh.
Ah, bon. C'est super.
C'est bien.
Ah, c'est cool.
C'est bien. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous reverrez la vidéo sur la chaîne YouTube.
Yes.
Ilyes, tu veux dire quelque chose?
Ah, j'ai regardé l'émission justement la dernière fois que j'étais venu. C'était
la première.
La première, ouais, c'était extraordinaire.
Vous pouvez la revoir sur YouTube.
Et je la remettrai ainsi de suite sur les réseaux, à fond.
Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé, un très bel été sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.